Les philosophies du mal, qui enseignent à certains de tuer des êtres humains, visent à créer la panique. Il nous faut nous lever et dire « nous n'avons pas peur ».
Ce que les chrétiens ont plus mal ressenti, c'est le fait d'avoir l'impression que le gouvernement ne parvenait pas à les protéger comme ils avaient annoncé qu'ils comptaient le faire. Ils se sentent particulièrement vulnérables.
J'ai vu des jeunes s'éloigner de l'Église depuis la révolution de 2011 parce qu'ils se sont rendus compte que l'institution n'était plus en phase avec la réalité.
Il n'y a pas de statistiques officielles, mais ils représentent environ 10% de la population égyptienne, 7 à 10 millions de personnes. Leur église est surtout la plus ancienne du pays, puisqu'il se réfère à Marc, l'évangéliste, arrivé en 41 après Jésus-Christ à Alexandrie. Les Coptes d'Égypte ont une histoire peuplée de martyrs. Il y en eut tant sous Dioclétien au 3e siècle qu'ils font débuter leur calendrier à cette époque, en 284. Aujourd'hui encore, ils souffrent dans leur chair de discrimination constante, d'agressions et d'attentats qui ont endeuillé leur communauté. L'un des pires s'est produit en 2011, la nuit de la Saint-Sylvestre, à la veille du printemps arabe. Depuis, ils ont lutté aux côtés des Égyptiens pour chasser Moubarak du pouvoir. Ils ont souffert ensuite quand les frères musulmans ont remporté des élections et contribué largement à la chute de Mohamed Morsi, l'éphémère président islamiste tombé à l'été 2013. Ils plaçaient donc beaucoup d'espoir dans l'arrivée du maréchal Al-Sissi au pouvoir, un homme capable de restaurer l'ordre en Égypte, de sécuriser leur quartier, de leur permettre peut-être d'accéder enfin à des responsabilités dans la fonction publique ou dans la justice, et porteur aussi d'une loi espérée depuis des décennies sur la construction des églises. Mais deux bombes ont ensanglanté les dernières célébrations de Pâques et aujourd'hui même, un bus transportant des pèlerins a été attaqué dans la région de Minya. Tout cela ravive la certitude qu'en tant que chrétiens, que coptes, ils sont ciblés comme des ennemis dans leur propre pays. Coptes d'Égypte, une communauté soudée face aux attaques. C'est un reportage signé Anne Fauquemberg. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous sommes avec Anne-Claire Bonneville, qui est maître de conférences en histoire contemporaine à l'INALCO et qui est avec nous en duplex depuis France Bleu Armorique à Rennes. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Je vais citer l'un des ouvrages que vous avez écrit, Histoire de l'Égypte moderne, l'éveil d'une nation, paru chez Champ Histoire, donc une collection de Flammarion. Et puis nous sommes ici à Paris avec Yves Trottignon. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous enseignez à Sciences Po, vous travaillez aussi dans un cabinet d'analyse des risques terroristes notamment. Et nous sommes bien sûr avec Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Tara.
Vous rentrez du Caire et du désert de Wadi Natroun, où vous avez rencontré la communauté copte égyptienne, une communauté frappée aujourd'hui même, on le disait, par un nouvel attentat.
Oui, ce matin, un bus qui transportait des chrétiens coptes a été attaqué dans la province de Minya, en Moyenne-Égypte, à environ 200 km au sud du Caire. Des hommes masqués ont ouvert le feu à l'arme automatique sur le véhicule avant de prendre la fuite. Selon le ministère de la Santé égyptien, il y a 26 morts et 25 blessés. Il se trouve que ces chrétiens coptes se rendaient dans un monastère et nous parlerons justement dans ce magazine du rôle des moines pour la communauté. Et les monastères sont des lieux de refuge où l'on vient se confier et trouver la paix en ce moment troublé. Car en plus d'être régulièrement attaqués par le groupe État islamique, les chrétiens coptes sont toujours discriminés dans la société égyptienne.
Et votre reportage, Anne, commence par évoquer un autre drame.
Oui, c'est l'attentat de l'église de la Botrosseia qui s'est produit le 11 décembre dernier au Caire et qui a fait 29 morts, le premier de la série revendiquée par l'État islamique avant Tanta et Alexandrie en avril dernier. Dimanche dernier, la justice égyptienne a déféré devant un tribunal militaire 48 personnes soupçonnées d'être à l'origine de ces trois attaques. Nous avons rencontré dans cette église du Caire un père de famille qui a perdu sa fille de 18 ans et sa femme et qui a voulu témoigner de cette violence.
On écoute donc votre reportage et tout d'abord le témoignage de cet homme, Ahmed Amin.
Le jour de l'attentat, nous sommes venus ici à l'église. Ma femme, ma fille, mon fils et moi. Mon fils et moi, nous servions à l'hôtel, tandis que ma femme et ma fille, ils étaient du côté des femmes. Je vais te montrer la photo et je vais t'expliquer ce qui est arrivé dans l'église. Là, c'est Verina, Verina Ahmed, c'est ma fille. Et elle est ma femme, Madeleine Taufi. Ici, nous voyons tous ceux qui sont devenus martyrs. Ils sont toutes des femmes. Il y a seulement Nabil Habib qui était le gardien. Il va nous montrer à l'intérieur de l'église. C'est le frère du gardien qui est aussi mort là. Seulement ici à l'église, on est toujours souriant. Quand on rentre à la maison, c'est très dur pour nous. Il a fait un signe avec la main pour dire on se perd dans la tristesse à la maison. C'est pour cela qu'on cherche toujours d'être ici à l'église. Le terroriste est entré par cette porte-là. Alors il est entré en courant, il s'est mis là. L'explosion est venue ici. Il y avait des billes qui sont de 1 cm de diamètre, qui sont très forts quand l'explosion est arrivée. Il avait ces billes-là sur sa ceinture, la ceinture qu'il portait. Alors quand il y a eu l'explosion, c'est arrivé partout et c'était très fort. Tout a volé là, le plafond, les portes et les fenêtres. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la partie latérale du chœur. Du côté droit, où sont les femmes, il y a ici la place où on fait les baptêmes. Ma fille et ma femme étaient assises dans ce côté-là, à droite. Elle était assise ici. Tu vois comme les billes étaient puissantes. Ils sont arrivés là. Ils ont laissé des marques partout dans le marbre. Alors, les billes ont pénétré le corps de ma fille. J'ai trouvé dans son pantalon au moins 9 billes qui sont entrées et sorties de son corps. Il pénétrait et laissait un trou, un grand trou comme ça.
Comment vous faites pour résister en ce moment, dans ce contexte, pour être là, debout, à nous parler ?
C'est la grâce de Dieu, je ne saurais pas t'expliquer. C'est très difficile à expliquer. C'est comme c'est une boisson chaude avec 2 cuillères de sucre et 2 cuillères de substance amère. Et puis tu réussis à la boire. Et ça ne serait pas possible sans venir ici à l'église. Quand je viens prier ici, je suis plus proche d'eux. Je sais qu'ils sont au ciel et moi je suis ici sur terre, je suis plus proche. Et c'est pour moi et pour mon fils aussi. On réussit à être plus proche
d'eux.
La vie avec eux, c'était très belle, mais j'ai confiance que leur vie avec Jésus, c'est beaucoup mieux.
Un mémorial a été ouvert en janvier dernier pour les victimes des attentats. Il se situe juste à côté de l'église de la Botrosseia, dans le musée dédié au pape Chenouda III. La communauté copte vit chaque jour sous la menace de l'État islamique, en particulier dans le désert du Sinaï que de nombreux chrétiens ont déjà fui, mais aussi en Haute-Égypte, zone rurale où la présence de l'État est moins forte. L'évêque Thomas est à la tête du diocèse de Kousseia Emer dans cette région. Il s'en tient à un discours d'unité nationale.
We can look at the situation from different perspectives.
Nous pouvons analyser la situation de différents points de vue.
First of all, these attacks that happen.
D'abord, ces attaques sont globales.
It happens everywhere. It happened in France.
Elles se produisent partout. En France, à Stockholm, à New York, et donc aussi en Égypte. Nous avons besoin de voir que le problème n'est pas local, mais global. La société doit se rassembler pour créer de la stabilité. La sécurité doit être la même pour tous. Bien sûr, ces attentats sont terribles pour les victimes, le monde chrétien et plus largement l'humanité. Et c'est difficile aussi pour les musulmans eux-mêmes qui ne comprennent pas pourquoi. En Égypte, la réaction des chrétiens a été exemplaire. Ils ont pardonné, tout simplement. Et l'amour qu'on doit porter à son prochain reste intact. Deuxièmement, les philosophies du mal qui enseignent à certains de tuer des êtres humains visent à créer la panique. Il nous faut nous lever et dire « nous n'avons pas peur ». C'est un message important. Nous n'avons pas peur. Enfin, ces attentats ont créé une sorte d'unité dans la société, parce qu'il y a eu beaucoup de marques de sympathie entre les Égyptiens, parce que tout simplement, ce sont des tragédies.
Je m'appelle Gaëtan Duroy, je suis chercheur au FNRS en Belgique, le Fonds national pour la recherche scientifique et à l'Université catholique de Louvain, et je fais un post-doctorat sur l'histoire et l'évolution des relations entre les chrétiens et les musulmans à partir de l'étude d'un quartier précis, le quartier de Choubra, au nord du Caire. Bon, les attentats ont frappé la communauté et l'ont beaucoup choqué. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça ait provoqué une évolution directement dans les relations entre les chrétiens et les musulmans. Ce que les chrétiens ont plus mal ressenti, c'est le fait d'avoir l'impression que le gouvernement, le régime, ne parvenait pas à les protéger comme ils avaient annoncé qu'ils comptaient le faire. Et ils se sentent particulièrement vulnérables et dans ces moments-là. Peut-être aussi dans ces moments-là d'attaques plus violentes ressort un peu chez les chrétiens un peu une frustration de ne pas pouvoir se plaindre publiquement et d'avoir un débat sur les discriminations dont ils se sentent victimes dans la société égyptienne en général.
Vous venez de parler des discriminations. Est-ce que vous avez des exemples au quotidien ?
Si on part d'un point de vue plus général, on peut dire que dans la loi égyptienne, il n'y a pas vraiment de discrimination anti-copte qui sont prévues, il n'y a pas de persécution organisée par l'État. Par contre, le climat général, qui préside un peu à la vie communautaire égyptienne depuis les années 70, fait qu'il y a une sorte de réislamisation de la société. L'islam est très présent, les signes de cette religion sont très présents dans l'espace public, les appels à la prière se font de plus en plus forts, le volume est de plus en plus fort, les taximen, les chauffeurs de bus, etc. vont passer des cassettes du Coran. Donc c'est ce marquage islamique, disons, de la société égyptienne, de l'espace public, fait que les chrétiens se sentent un peu oppressés par ça. On peut imaginer que, à l'inverse, des musulmans pourraient ne pas apprécier d'entendre des enregistrements de la Bible toute la journée, etc. Donc ça, c'est un climat général. Après, depuis l'époque de Nasser, donc avant même l'époque vraiment de la réislamisation, il y a une sorte de marginalisation des coptes dans un certain nombre de domaines, dans le domaine de la diplomatie. Dans la police et dans l'armée, il y a très peu d'officiers coptes. Les doyens de facultés dans les universités sont pratiquement jamais coptes. Donc il y a une sorte de repli, alors que les coptes étaient très présents dans les appareils du gouvernement avant la révolution nassérienne, avant la prise du pouvoir par les officiers libres. Depuis cette époque-là, les coptes se concentrent plus sur les professions libérales, comme on dit, médecine, avocat, pharmacien, etc. Ils sont présents dans la société égyptienne, ils ne sont pas absents, même dans la fonction publique, mais un petit peu, en tout cas, ils ne se sentent pas représentés au rang de leur nombre ou de ce qu'ils pensent pouvoir apporter à leur société.
C'est une communauté qui est plus pauvre en moyenne que le reste de la société ?
Non, ils sont ni plus pauvres ni plus riches. Il y a souvent l'idée, d'ailleurs, que les coptes seraient une élite particulièrement riche. Alors, ils sont représentés dans cette catégorie. Il y a des hommes d'affaires très, très riches. Une des familles les plus riches, la famille Sawiris, et notamment Naguib Sawiris, très présent dans les télécommunications, notamment. Il est copte. Et, par contre, à l'autre opposé, on pourrait dire, il y a les chiffonniers du Caire, qui sont souvent pris comme exemple. Il y a des paysans en Haute-Égypte qui sont coptes, etc. Il y a des gens de la classe moyenne qui le sont également. Donc ils sont un peu dans toutes les strates de la société. On ne peut pas vraiment dire qu'ils soient plus riches ou plus pauvres que les musulmans.
Ça Je m'appelle Bishoy, j'ai 30 ans. Je travaille dans une entreprise privée égyptienne qui fabrique des tubes pour les produits pharmaceutiques. Je suis avec ma fiancée Nardine, avec qui je vais me marier en février prochain. Et j'ai vécu toute ma vie en Égypte.
C'est quoi cette petite croix que vous avez comme un tatouage ? C'est un tatouage d'ailleurs sur votre poignet droit.
Ok. It's a cross. Ok, no tattoo.
C'est une croix. On ne peut pas dire que ce soit un tatouage au sens moderne du terme. C'est plutôt un signe traditionnel copte. Ça remonte à l'arrivée des musulmans en Égypte. Il y a eu à cette époque beaucoup de persécutions pour les chrétiens. Ils ont été arrêtés et leurs chaînes ont laissé des marques bleues sur leurs cou et leurs poignets. Mais les coptes étaient très fiers. Parce qu'ils ont gardé leur religion. C'est pourquoi aujourd'hui ils font cette petite croix sur le corps de leurs enfants. Et cette tradition se transmet de génération en génération. La plupart des chrétiens coptes orthodoxes font ce signe, mais les coptes catholiques ne le font pas.
Avez-vous déjà été discriminé parce que vous êtes copte ?
To be honest, a little times.
Pour être honnête, oui, une fois ou deux. Et je connais aussi beaucoup de chrétiens qui ont eu des problèmes, notamment lors de leur service militaire. C'est une obligation en Égypte, même si moi je ne l'ai pas fait, parce qu'il n'y avait pas de besoin à mon époque. Mais mon frère y est passé, et c'était vraiment compliqué, parce qu'il était le seul copte du groupe. Dans les clubs de foot prestigieux, c'est aussi une discrimination qui est connue. Il n'y a jamais de joueurs coptes.
Nardine, vous vous êtes déjà sentie discriminée parce que vous êtes copte ?
Les hommes ici en Égypte, toujours, toutes les filles sentent qu'il y a un problème avec leur manière de vêtements. Donc, pour les chrétiennes, c'est un peu en plus parce qu'on ne porte pas le voile. Mais je ne peux pas dire que c'est. Je sens ça tout le temps.
Another point in Ramadan, every day is in the month.
Et puis il y a la période du Ramadan. Tu ne peux pas manger ni boire dans la rue pendant ce mois-là. Tu ne peux pas non plus boire d'alcool pendant cette période.
Isaac Ibrahim porte un regard vigilant sur ces discriminations. Il est chercheur dans une ONG de défense des droits de l'homme et s'occupe en particulier des affaires concernant la liberté de culte et de croyance.
Alors d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que la religion est très importante dans la vie égyptienne et que la majorité des Égyptiens sont des conservateurs. L'État reconnaît cette réalité et l'utilise pour gouverner et mobiliser les Égyptiens. Par exemple, il utilise les institutions officielles musulmanes, comme la mosquée Al-Azhar, et les non officielles, comme les prédications et les groupes salafistes, mais aussi l'Église copte orthodoxe. Et l'État a pris l'habitude de ramener le débat aux valeurs de la religion et non pas de la loi fondamentale.
La nouvelle constitution de 2014 a-t-elle amélioré les droits pour les chrétiens coptes ?
Oui, c'est mieux que sous les frères musulmans. La nouvelle constitution garantit la liberté religieuse. Et il y a aussi un article qui introduit un système de quotas pour la représentation des chrétiens coptes au Parlement. Mais il y a un écart entre la théorie et la pratique. Par exemple, un nouveau texte a été voté pour la construction des églises en août dernier, mais les conditions restent difficiles. Si vous voulez construire une mosquée, il y a juste besoin de prouver aux autorités locales que le bâtiment répond aux normes de construction. Pour les églises, l'autorisation se prend au niveau du gouvernorat. Et en plus, il faut montrer que l'implantation ne va pas poser de problème de sécurité dans le quartier. Ça veut dire qu'en gros, l'église doit être acceptée par les musulmans, qu'il y ait assez de chrétiens pour la justifier et qu'elle ne soit pas trop proche d'une autre église. Mais tous ces critères ne sont pas très clairs et c'est utilisé pour ne pas donner le droit de construire.
Nous sommes dans le quartier de Chobra, quartier de la classe moyenne du Caire, quartier qui symbolise aussi l'authenticité de la ville. Alors il y a une très forte présence copte ici et nous allons rencontrer Michel Zakaria Abdulmazia, qui est très investi dans l'église copte de Sainte Damania, l'une des 20 églises de ce quartier.
J'ai 3 enfants. La plus âgée a un diplôme de pharmacie, mais elle est entrée au couvent. Mon deuxième fils est aussi diplômé de pharmacie, mais a immigré au Canada. Et ma troisième a un diplôme d'architecture et elle réalise son magistère.
Vous êtes investi dans l'église. Qu'est-ce que vous faites exactement? Comment vous vous investissez dans votre communauté?
Je m'occupe du service religieux pour les artisans et les ouvriers depuis 40 ans. On leur apprend à connaître Dieu, on leur parle de religion pour qu'ils apprennent à se comporter correctement. Par exemple, dans le milieu des ateliers, certains prennent des drogues. Donc on essaie de les garder dans le droit chemin pour qu'ils soient en bonne relation avec Dieu.
Dans le contexte en ce moment des attentats, c'est encore plus important d'avoir la foi, d'aller vers l'église.
Le martyr est quelque chose qu'on place au-dessus de tout dans l'église. C'est même plus important que de devenir moine. C'est au-dessus de tout. Même dans la hiérarchie de l'église, il y a bien sûr le Christ, la Vierge, Jean-Baptiste. Et puis viennent les martyrs, qui sont vraiment adorés.
Vous avez renforcé la sécurité dans les églises après ces attentats?
Oui. Oui, on a changé des choses. On a renforcé la sécurité. On a mis des portiques de détection de métaux. Mais on n'a pas peur. On n'a pas peur du martyr. Et à l'image du Christ, on est prêt à se sacrifier s'il le faut.
Le mot grec « martyr » signifie « témoin ». Pour les religieux coptes, à l'image des premiers chrétiens, les victimes des attentats payent de leur vie leur fidélité au Christ et ces attaques ne font que renforcer leur foi. Depuis 6 ans, l'iconographe Victor Fakouri rend ainsi hommage à ces martyrs des temps modernes, et cela dans une série d'icônes actuellement exposées au musée copte Saint-Marc à Toronto, au Canada. Dans son atelier du Caire, l'artiste nous dévoile l'une de ses dernières productions en lien avec l'église de la Botrosseia.
Celle-là, c'est l'icône qui représente l'attentat sur l'église du Botrosseia. Comme vous voyez, j'ai décidé l'église même, la Botrosseia, et c'est l'église de Saint-Paul et Saint-Pierre. Et Jésus-Christ qui est au-dessus, avec ses bras ouverts, et ses bras sont ailés sous forme des ailes pharaoniques. Presque tous les martyrs de cette église, c'était rien que des femmes, sauf le gardien de l'église, qui se trouve au milieu de ces femmes. Et conversé, j'ai mis sur ce rocher, je construis mon église et les portes de l'enfer n'y pourront rien. Et avec la grosse pierre ici, ou bien la roche, je veux dire que c'est la pierre des martyrs. Et toujours, on a la date sous forme de croissant, la date de l'événement. Et la Vierge dans cette icône représente le ciel parce que tous les martyrs dans l'icône ici sont montés en ciel avec Jésus-Christ. Et elle présente les couronnes pour les martyrs, ou bien les auréoles si vous voulez.
En cette période trouble, les monastères du désert de Wadi Natroum, au nord-ouest du Caire, sont un refuge. 5000 pèlerins se rendent en moyenne chaque week-end à celui de Saint-Bichoy. Ils se recueillent sur la tombe de l'ancien pape Chénouda III, resté 41 ans à la tête de l'église d'Alexandrie. Un pape très influent qui a mieux structuré sa communauté et qui a poussé l'éducation religieuse à travers le mouvement des écoles du dimanche. Mouvement qui concerne toutes les classes sociales, de l'âge de 4 ans jusqu'à l'université. C'est un véritable ciment culturel pour les coptes orthodoxes.
Je m'appelle Kirolo Salib, j'ai 15 ans, je viens du Caire, d'Égypte.
Et c'est la première fois que tu viens ici ?
Non, c'est la troisième fois.
Qu'est-ce que tu aimes dans cet endroit ?
Mbabchoui, c'est le symbole de l'obéissance et de l'amour. Le pape Chénouda, on se sent en paix. C'est lui qui a été la source de la paix en Égypte.
Qu'est-ce que tu penses de la situation actuellement en Égypte entre les chrétiens et les musulmans ? Qu'est-ce que tu penses des relations entre les deux religions ?
L'idée de la persécution des musulmans vers les chrétiens, c'est une idée fausse. Pas tous les musulmans persécutent les chrétiens. Nous avons des musulmans qui sont nos frères, nos amis, qui sont bien éduqués, qui nous traitent bien. Alors c'est une idée fausse de la persécution.
Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Est-ce que tu veux rester en Égypte ? Comment tu t'imagines quand tu seras plus grand ?
J'aimerais bien rester en Égypte. Mon rêve, c'est de rester en Égypte, de devenir membre de la police, un docteur, un ingénieur. À la fin, j'aimerais bien rester en Égypte.
Et c'est pas plus difficile quand on est copte d'avoir un poste à responsabilité ?
Non, c'est pas difficile. Et on a le pape Chénouda avant de devenir moine. Il a eu un poste élevé ici en Égypte, alors non, c'est pas difficile de le devenir.
Welcome to my monastery. Les 3000 moines de l'église copte orthodoxe occupent une place à part dans la communauté. Tout d'abord, le pape est issu de leur rang et dans les monastères, lieux de refuge et de paix, ils sont de précieux confidents, comme en témoigne le père Berti du monastère de Saint-Macaire.
Tous les visiteurs qui viennent ici ont déjà une idée de ce monastère et le monastère de quel saint. Ils viennent ici parce qu'ils veulent visiter, ils veulent se rencontrer avec ce saint. Et parce que ce saint a une influence sur leur vie. Tout le monde, spécialement les coptes, ils croient à l'influence des premiers saints. Ils viennent ici pour prendre la force de ces saints et pour visiter les gens qui vivent ici au monastère, ceux qui ont été là avant eux et qui ont connu ces gens, et ils prennent cette influence et retournent à leur vie avec cette force qu'ils ont trouvée ici.
Le nouveau pape,
Théodore II. Il amène quelque chose de nouveau à la communauté. Vous disiez que Shenouda était très légitimiste. Le nouveau pape, c'est aussi le cas?
Alors, au niveau du légitimisme, oui. Le pape soutient le régime de Sissi depuis le premier jour et il n'a pas cessé de le faire.
Gaëtan Duroy, historien.
À ce niveau-là, d'ailleurs, il est critiqué par certains membres de sa communauté. Peut-être du fait d'impliquer trop sa communauté auprès du président Sissi, ce qui a fait aussi que les Coptes ont vécu de terribles attaques après que les sit-ins des frères musulmans soient brutalement délogés dans le sang. Une vague d'attaques jamais vue, d'ailleurs en Égypte, d'églises a eu lieu, notamment en Haute-Égypte. Donc, parfois, je crois que certains peuvent lui reprocher justement de trop impliquer les Coptes, de parler en leur nom pour le régime. Dans d'autres aspects, pour les aspects internes, on va dire, en général, Théodore est plus ouvert que le pape Shenouda, qui était très dur vis-à-vis des autres communautés chrétiennes, notamment les catholiques et les protestants. Au niveau, disons, interne, il est un peu moins autoritaire. Au niveau des relations avec le pouvoir, il est tout aussi légitimiste. On ne voit pas encore à ce stade de différence.
Le contexte récent des attentats, ça amène les Coptes à aller se réfugier dans la religion. Vous sentez quand même qu'il y a une peur quand même actuellement ?
Je sens beaucoup de résignation, ce qui est assez triste. Il se fait que j'étais moi-même dans un monastère pour le dimanche des Rameaux avec un ami copte au moment où ces attentats, on a eu connaissance des attentats. Et j'ai été impressionné par le fait que bon, ça continuait la journée comme si de rien n'était. Une sorte d'habitude qui s'installe, de résignation, qui est encouragée par les autorités d'ailleurs. Le discours officiel, c'est un discours un peu théologique, disons. Finalement, il est écrit dans la Bible que les chrétiens sont victimes d'attaques de leurs ennemis et que finalement la seule vie qui vaille est dans l'au-delà. Donc on a ressorti ce discours, voilà. Qui est un discours évidemment dépolitisant, hein, c'est-à-dire on ne peut rien faire ici et maintenant. Évidemment, le but des autorités ecclésiastiques est que les Coptes ne tournent pas leur colère vers les autorités.
Globalement, c'est une communauté qui est calme, en fait, qui n'est pas du tout violente.
Bon, il n'y a pas de mouvement copte violent, non. On pourrait dire aussi que structurellement, ils sont trop peu nombreux pour que ça soit même envisageable. Comme au Liban, par exemple, on a connu des mouvements chrétiens violents, mais bon, ils représentaient une bonne part de la population, les rapports de force étaient différents. Mais personne n'appelle à la prise des armes, etc. Enfin, ce genre de mouvement n'existe pas, non.
La résignation, elle traverse aussi une partie des jeunes qui ont participé à la révolution de 2011 sur la place Tahrir, comme l'Union des jeunes de Maspero, un groupe de coptes laïcs qui est désormais dissous et dont la page Facebook est hébergée aux États-Unis. Sur les bords du Nil, au Caire, nous rencontrons Georges, un chrétien copte orthodoxe âgé de 30 ans. Lui aussi s'est mobilisé en 2011 contre le régime de Moubarak, mais en tant que simple citoyen et jeune médecin. Aujourd'hui, avec la jeunesse cosmopolite du Caire, il tente de maintenir vivant l'esprit de la révolution, une expérience qui a marqué sa génération.
Vous avez participé à la révolution de 2011, vous avez aidé sur la place Tahrir à soigner les gens notamment. Est-ce que ça a changé quelque chose chez vous dans votre rapport à l'Église ?
Non, pour moi ça n'a rien changé, mais j'ai vu des jeunes s'éloigner de l'Église depuis la révolution de 2011. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'institution n'était plus en phase avec la réalité. L'Église défend le système pour lui-même, pour préserver la communauté à travers le temps. Plus il y a de problèmes, des attentats, des bombardements, des menaces, plus elle tente de mettre les chrétiens tous ensemble pour qu'ils se prennent en charge. Mais ça crée aussi une séparation entre les Coptes et le reste des Égyptiens. Les jeunes s'en sont rendus compte pendant la révolution et ils ont cherché à s'échapper de cette logique de sécurité communautaire. Certains ont refusé de revenir dans ce système. D'autres sont repartis en essayant de le changer. Mais actuellement, c'est ça notre problème. C'est cette ligne de séparation du reste de la société. Je me souviens pendant les événements de 2011, tout au début, il y avait eu une réunion pour les jeunes dans une église, une réunion à laquelle j'ai assisté. À cette époque, il y avait beaucoup de discussions sur la politique, les partis, l'élection présidentielle. Eh bien, tous les jeunes ont demandé à l'église de les aider dans ces débats qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient jamais participé à de telles affaires. Ils n'avaient jamais été en contact avec le monde extérieur. Ils ne savaient pas ce qu'était la politique et comment voter.
Nardine, comment vous voyez votre avenir en Égypte? Comment vous vous imaginez dans les années qui viennent?
C'est une question difficile parce que nous sommes des jeunes et we have hope, of course, we have. On ne sait pas si comment les jours à venir, ce serait les conditions financières, politiques, tout ne sont pas si stables, mais on espère, on a l'espérance.
Bichoy.
C'est une question difficile. Je n'ai pas envie de vous donner une image négative de l'Égypte, mais c'est un fait. On est sous le contrôle militaire depuis des années. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter, parce que la plupart d'entre nous ont peur des frères musulmans. La politique, elle affecte tous les domaines de notre vie, et notamment l'économie. Mais beaucoup de jeunes ont acquis une nouvelle mentalité, plus libre. Ils sont toujours sur Internet et ils voient bien comment on vit dans les autres pays. Peut-être que la prochaine génération changera les choses.
ورانا ايه نحب نتشرف ورانا ايه.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, Copte d'Égypte, une communauté soudée face aux attaques. C'est un reportage signé Anne Fauquemberg avec la collaboration de Nadine Nadeau et de Catherine Facori pour les traductions. Reportage réalisé par Annie Bro. Et nous sommes toujours avec nos deux invités, le spécialiste des risques terroristes, entre autres Yves Trottignon, et l'historienne Anne-Claire Bonneville. Madame, on va peut-être quand même commencer cette discussion en évoquant l'attentat qui a été commis aujourd'hui dans la région de Minya. On a parlé tout à l'heure des attaques qui ont eu lieu contre trois églises depuis le début de l'année, depuis décembre dernier en fait. L'attentat à Minya frappe une région qui est très différente forcément du Caire, qui est une grande ville assez cosmopolite. Quelles sont les relations dans cette province entre les Coptes installés depuis longtemps et les musulmans?
Alors, en Égypte, peut-être un petit panorama rapide de la communauté copte. Vous avez à peu près les deux tiers des coptes qui sont installés au sud du Caire, justement dans la région de la Moyenne Égypte, Assyut, Minya. Et puis vous avez un tiers des coptes qui sont au Caire et dans sa grande périphérie et dans le delta. Ces populations coptes qui sont installées en Moyenne Égypte, elles vivent au quotidien à côté des populations musulmanes, mais la cohabitation, le reportage le disait, n'est pas toujours très très facile avec ces populations musulmanes, et notamment parce que en Moyenne Égypte, on a une présence assez importante des frères musulmans ou bien de groupements dans les années 1990, on appelait ça les Gamarat Islamiya, donc en fait de groupements musulmans qui prônent un retour à un islam rigoriste, à l'application de la charia et du coup la cohabitation avec les coptes n'est pas toujours très facile et ça s'est manifesté notamment dans les années 1990-2000 par un certain nombre de violences confessionnelles qui se sont développés plus particulièrement dans cette région. Donc en fait, la situation que l'on voit à l'heure actuelle se développer, hein, et puis avec cet attentat terrible encore aujourd'hui, cette situation, elle n'est pas complètement neuve en Égypte. Elle prend plus d'ampleur parce que notamment l'État islamique a annoncé que il visait tout particulièrement la communauté copte. Mais les relations ne sont pas très faciles entre ces deux groupes de, de population. Alors, pas les musulmans en général, hein, mais ceux, évidemment, qui sont favorables à une application de la charia.
Alors, mais avant de... Enfin, je vous coupe juste, parce que avant de parler de l'État islamique, je voulais juste avoir une précision sur ces islamistes. Par exemple, de la Gamaat Islamiya, quel poste occupaient-ils ? Est-ce qu'ils avaient, à cette époque-là, dans les années 90, des postes de responsabilité, ou est-ce que c'était déjà une sorte de guérilla anti-copte, entre autres, mais pas seulement ?
Alors, en fait, il faut remonter un peu dans le temps et il faut voir la politique qu'a menée le Sadat lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il a voulu essayer d'éliminer un peu ce qu'avait fait Nasser et il a favorisé le développement de la Gamaat Islamiya. Et notamment, cette Gamaat Islamiya s'est beaucoup développée au sein des universités. Alors, avec le soutien des institutions universitaires, alors qui n'étaient pas nécessairement à la tête des universités, mais enfin qui ont soutenu ce mouvement de réislamisation contre le nasserisme, contre les soutiens de Nasser. Et donc ces mouvements se sont développés, sauf que il y a eu l'attentat perpétré contre Sadat et donc la mort de Sadat en 1980, ce qui fait qu'on a eu un revirement de position de la part du pouvoir sous Moubarak, qui a
à nouveau marginalisé les islamistes, quoi, plutôt.
Oui, et qui les a poursuivis, qui les a pourchassés.
Alors, on va se tourner vers notre deuxième invité, Yves Trottignon, pour parler encore de cet attentat aujourd'hui qui est dans cette région de Minya. Jusqu'à présent, on voyait l'État islamique plutôt actif dans le Sinaï. Est-ce que pour vous, il est évident que c'est l'État islamique qui a frappé aujourd'hui dans cette région plus rurale ? Et est-ce que ce sont les mêmes réseaux ?
Alors, évident, rien n'est jamais évident tant qu'on n'a pas de revendication et tant que l'enquête n'a pas été conduite. Mais l'État islamique est actif à la fois dans le Sinaï, sous la forme d'une guérilla assez virulente, et l'État islamique dispose de cellules urbaines dans le Grand Caire et à Alexandrie. Ça fait, comme on vient de l'entendre, ça fait maintenant des semaines et des mois qu'on entend parler d'incidents de plus en plus violents, en moyenne et en Haute-Égypte, et on peut penser que l'État islamique profite de ces tensions pour recruter. C'est-à-dire qu'il ne se projette pas, mais il joue sur les tensions locales pour avancer ses pions.
Donc il ne se projette pas, ça veut dire que ce serait une force un peu différente de celle du Sinaï. Dans le Sinaï même, il y a quand même l'état d'urgence qui a été instauré depuis un certain nombre d'années maintenant, je crois que c'est depuis 2014. Est-ce que cette présence accrue, on imagine, du régime égyptien, arrive à freiner un peu les islamistes qui sont en mouvement sur place ?
Alors, juste un point de djihadologie, comme on dit entre nous. En fait, vous avez la Vitaya du Sinaï, donc, qui est donc un mouvement djihadiste relativement ancien qui s'est rallié en 2014 à l'État islamique et qui a pris ce nom de Vitaya du Sinaï. Puis vous avez des gens de l'État islamique ailleurs en Égypte et qui parfois ne revendiquent pas au nom de la Vitaya, mais au nom du groupe lui-même. Alors, s'agissant du Sinaï lui-même, c'est une guérilla ancienne. Souvenez-vous du gazoduc qui relie l'Égypte à Israël, la Jordanie, qui a brûlé des dizaines de fois depuis 2011, et les attentats même 2004, 2005, 2006, contre des resorts touristiques dans le sud de la péninsule, sur les spots de plongée. L'armée égyptienne, avec l'accord d'Israël, l'accord politique d'Israël, puisque la péninsule du Sinaï dispose d'un statut particulier où on ne peut pas déployer trop d'armes et trop d'armées à cause d'accords de Camp David de 1978, l'armée égyptienne monte en puissance, mène des actions de contre-guérilla et n'y arrive pas. Et plus on est tenté de dire que plus elle frappe, moins elle y arrive. Et ça pose un problème, toujours le problème que les Occidentaux et les autres ont, c'est que la violence seule ne parvient pas nécessairement à obtenir un gain politique à moyen terme.
Une question de Dan Fauquemberg.
Anne-Claire Bonneville, justement, est-ce que les autorités égyptiennes ne sont pas un peu dépassées dans le Sinaï ?
Si, on signale beaucoup que sans doute les services de renseignement n'arrivent peut-être pas à faire leur travail correctement, sont peut-être un peu débordés. On évoque aussi une forme de terrorisme d'État dans le Sinaï, c'est-à-dire qu'en fait la police, l'armée va développer une violence démesurée contre des individus et peut-être à peu près n'importe quel individu en fait, et du coup ça va alimenter finalement le courant de ceux qui s'opposent à l'État égyptien, parce que cette violence très forte de l'État est génératrice d'un profond malaise dans la population, hein. On a des populations qui sont déplacées, on a c'est un des exemples de ce que l'on trouve dans la province du Sinaï. Je voulais aussi juste évoquer à propos de l'État islamique le procès qui s'est ouvert la semaine dernière de ceux qui sont accusés d'avoir perpétré les attentats
les trois attentats de décembre et d'avril, oui.
En Égypte, et on dit qu'il y a deux cellules, il y aurait une cellule du Sinaï et une cellule de Kenna, hein, donc une cellule implantée effectivement dans la vallée du Nil. Voilà.
Oui, c'est ce que disait Monsieur Trottignon. Ils ont effectivement des cellules locales aussi au Caire, peut-être à Kenna, et effectivement, ils sont jugés en ce moment devant un tribunal militaire. Juste, ça nous permet de rebondir sur ce que vous dites, Madame Yves Trottignon. Est-ce qu'on peut attendre des condamnations sévères? Est-ce que la justice, et plutôt, disons, la police, a fait un véritable travail d'enquête pour trouver ces 48 suspects? Pourquoi 48? Ça paraît peut-être beaucoup. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
J'en pense. C'est une question fondamentale pour le régime qui joue sa crédibilité interne et externe sur cette question de lutte contre le terrorisme. Le pouvoir égyptien a été élu sur une promesse de rétablissement de l'ordre et de retour de la sécurité et de retour d'une forme de grandeur égyptienne qui serait un État stable qui lutterait victorieusement contre ses ennemis. Pour connaître un petit peu l'Égypte et pour avoir fréquenté les services égyptiens dans une précédente vie, on peut estimer que dans ce procès, il y a une part d'enquête policière de qualité et une part de nécessité politique d'avoir des arrestations et des condamnations. Et les condamnations seront, pour certaines, extrêmement sévères parce qu'on joue là du symbole. Et finalement, la vérité judiciaire est moins importante dans ces histoires que le symbole d'un État qui lutte et qui vainc contre le terrorisme.
Anne-Claire Bonneville, on sait que les Coptes d'Égypte, pour revenir à eux en particulier, se considèrent comme, entre guillemets, les vrais Égyptiens. Ils sont là depuis plus longtemps encore que ceux qui se sont ensuite convertis à l'islam. Et on a beaucoup ressenti à travers le reportage de Anne qui sont extrêmement peinés quand même d'être pris pour cible et considérés comme finalement presque des étrangers dans leur propre pays, des représentants de l'Occident. Enfin, comment est-ce qu'ils se positionnent face à ces attaques répétées contre eux-mêmes et contre leur foi?
J'ai trouvé que le reportage était très intéressant et effectivement, ce qui m'a frappé à la fin, c'était ce témoignage plein de résignation en disant peut-être que la prochaine génération pourra arriver à faire évoluer les choses. J'ai été très frappé par ça. Comment se positionnent les Coptes? En fait, on peut peut-être repartir un peu là aussi en arrière. Les Coptes ont participé, hein, et ça a été dit pendant le reportage, au mouvement qui a fait tomber Moubarak en 2011. Et ensuite, les Coptes, au moment de l'élection de Mohamed Morsi, étaient très mal à l'aise quand ils ont vu la politique qui était menée d'islamisation, de frérisation, disait-on même, de l'État égyptien. Et du coup, ils se sont effectivement effectivement rassemblés derrière le général Al-Sisi quand il a destitué le président Morsi. À l'heure actuelle, les Coptes regardent la situation telle qu'elle est en Égypte. Hein. La situation sécuritaire est grave, mais il n'y a pas que la situation sécuritaire qui est très difficile. Il y a aussi une situation économique qui est particulièrement dure pour l'ensemble des Égyptiens. Et finalement, les Égyptiens, les Coptes, les Coptes sont logés à la même enseigne que l'ensemble des Égyptiens sur ces questions, et du coup, comme le reste de la population, ils n'accordent pas un soutien complet au président Al-Sisi, même si l'institution religieuse, hein, et notamment le pape Théodore II, lui est vraiment en soutien aux institutions de l'État. Et on l'a même vu présent au moment de la destitution du président Morsi. On était à ce moment-là en 2013. Hein. Il était aux côtés du général Al-Sisi lorsque celui-ci a annoncé la destitution du président Morsi. Alors, mais voilà, on a un peu une divergence, une dichotomie entre l'institution, la tête du patriarcat, et puis le reste de la communauté.
Ouais, alors, une question d'Anne Fauquemberg.
Justement, vous venez de parler de Théodore II. Il a une personnalité différente, hein, on l'a dit dans le reportage de son prédécesseur Chenouda III. Et au moment de la présidence de Mohamed Morsi, il a été très critique, hein, d'ailleurs, à l'égard du pouvoir. Il a refusé d'ailleurs de participer au dialogue national. Est-ce qu'il s'est comporté à ce moment-là en chef politique ?
C'est un peu la tradition depuis Nasser, c'est-à-dire que c'est le rôle que Nasser a donné finalement au pape Chenouda III, qui est resté en fonction très très longtemps, puisqu'il est resté en fonction jusqu'en 2012, il est mort en 2012, et puis Tawadros, ou Théodore II lui a succédé. Et effectivement, ces hommes-là sont à la fois à la tête d'une institution religieuse, mais ils ont aussi un rôle politique à jouer, on le voit assez bien, oui.
Yves Trottignon, on vient de parler de Mohamed Morsi, de la période où les islamistes ont pris le pouvoir assez brièvement, finalement, en Égypte. De quel genre de discrimination ont été victimes à ce moment-là les Coptes ? On a vu que juste après que Mohamed Morsi soit parti, ait été destitué par Al-Sisi, il y a eu une campagne, vous le disiez vous-même, une campagne d'attentats très, très dure à l'encontre des Coptes. C'était le fait d'islamistes organisés comme l'État islamique ou pas vraiment ?
En fait, il faut faire extrêmement attention à ne pas confondre les frères musulmans avec les djihadistes. Ouais. C'est vraiment un point central. Au moment de la révolution égyptienne, et un petit peu après, Al-Qaïda, par la voix de son chef, Ayman al-Zawahiri, qui est un Égyptien. On ne dira jamais assez qu'Al-Qaïda est un mouvement, entre autres, égyptien. Zawahiri dit aux frères musulmans, vous faites une erreur. Vous savez très bien que, je cite, hein, évidemment, qu'il est absolument impie de passer par les élections, que ce que vous faites est déjà contraire à l'islam que nous défendons. Et en plus, vous êtes des idiots parce que l'armée va vous renverser. Ne croyez pas une seconde que l'armée et les Occidentaux accepteront que vous restiez, vous, avec un programme plus ou moins islamiste au pouvoir. Donc il y a une vraie différence idéologique de fond entre les djihadistes et les frères musulmans. Et ce discours d'Al-Qaïda nourrit, évidemment, à la fois les tensions locales et la stratégie des groupes djihadistes dans le Sinaï, qui à l'époque sont Al-Qaïda, ne sont pas encore alliés à l'État islamique, et qui, eux, considèrent que, de toute façon, le moment est là, l'histoire est là, et qu'il faut jouer la lutte contre l'État égyptien. Alors que, pendant quelques années, on a eu un calme précaire, mais un calme quand même réel dans le Sinaï.
Une question d'Anne.
Anne-Claire Bonneville, il y a 2 millions de Coptes, hein, qui ont fui l'Égypte, beaucoup en Amérique du Nord, et notamment pendant la période Morsi. C'est toujours le cas aujourd'hui ?
Oui, alors le chiffre de 2 millions, c'est un chiffre qui est avancé et très très difficile évidemment de savoir exactement combien de Coptes ont quitté l'Égypte. C'est un mouvement qui s'est amorcé sous Sadat, qui s'est continué sous Moubarak et qui encore maintenant, hein, on a un certain nombre d'Égyptiens de Coptes qui quittent encore le pays à l'heure actuelle, oui, sous le président Al-Sisi. Et Alors, à l'origine, c'était des raisons économiques, ces raisons aussi d'espèces de plafond qui est mis en place, qui empêche les COP d'avoir des fonctions auxquelles ils pourraient espérer prétendre. Il est possible aussi que ce mouvement, à l'heure actuelle, d'attentats qui sont organisés vraiment contre eux, hein, à la différence de ce que disait l'évêque Thomas, qui disait que le problème n'était pas local et qui essayait de montrer que c'était cette vague de violence, on l'a retrouvé un peu partout dans le monde. En l'occurrence, en Égypte, ce sont vraiment les Coptes qui sont visés par l'État islamique. Hein, ils le disent bien à l'heure actuelle, après avoir visé plutôt des hommes, plutôt des policiers ou plutôt des magistrats. Maintenant, ce sont les Coptes qui sont directement visés. Alors, il est possible aussi que le mouvement soit relancé au sein de la communauté, oui. Le mouvement de départ soit relancé.
Alors, un mot de conclusion, si vous voulez bien, il nous reste à peu près 30 secondes. On voulait juste évoquer la question des discriminations. Qu'est-ce qu'attendent finalement en matière de discrimination les Coptes aujourd'hui du président Al-Sissi ? Est-ce qu'il va dans leur sens ? Est-ce qu'il va leur permettre d'accéder, vous croyez, à des postes importants dans la fonction publique et autres ?
Juste une chose, peut-être une note d'espoir, faudra voir comment ça se traduit dans la réalité, mais c'est le discours du grand imam d'Al-Azhar qui dit qu'il faut cesser ces discriminations et qu'il faut maintenant qu'on raisonne en termes de citoyens et que les chrétiens, les musulmans doivent être des citoyens à part entière dans un état égyptien. Voilà, et donc c'est peut-être une note d'espoir pour la suite.
D'accord, bah, je vous remercie beaucoup. Anne-Claire Bonneville d'avoir accepté d'être notre invitée depuis France Bleu Armorique. Merci à Yves Trottignon d'être venu avec nous ici en studio, d'avoir participé à ce magazine de la rédaction Copte d'Égypte, une communauté soudée face aux attaques. C'était un reportage d'Anne Fauquemberg réalisé par Annie Bro à la technique, ici Jacques Hubert. Merci donc aussi à France Bleu Armorique pour le duplex. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster et la commenter sur notre site franceculture.fr.